6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, et on est raccord donc sur la couleur jaune,
différentes
nuances de couleurs. Le jaune en Europe, c'est votre sujet.
Oui, vous disiez apprendre à parler, nous on va apprendre à compter alors que les manifestations des gilets jaunes continuent en France et que le symbole commence à apparaître ailleurs en Europe, tout exprimant d'ailleurs une colère et un sentiment d'injustice fiscale. Et bien la fraude, l'évasion et le dumping fiscal sont-ils aussi en train de devenir une urgence sécuritaire? On voit ça avec vous, Sylvie Matelli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS et vous vous interrogez avec un de vos collègues, Éric Vernier, sur le lien entre gilets jaunes et équité fiscale et puis l'impact politique de la question. Pour le rejet, c'est assez clair. Hein, on a comparé les gilets jaunes un peu à tout, déjà crié jusqu'au 6 février 34. Il y a aussi un exemple que les médias internationaux préfèrent, qui est intéressant, c'est le Tea Party, parce que lui, au fond, à une attitude de rejet fiscal et gouvernemental. Ça vous semble une approche déjà assez juste pour cerner le mouvement Tea Party à la française?
Oui et non, parce que le Tea Party est organisé, il s'inscrit dans un parti politique, alors que très clairement, les gilets jaunes refusent l'idée même de la récupération, sont très divisés dans leur contestation et dans ce qu'ils souhaitent. Mais c'est vrai que le refus de l'impôt, ou en tout cas l'impression d'injustice fiscale, est quelque chose qui semble fédérer le mouvement, et qui semble fédérer d'ailleurs tous ces mouvements de contestation en Europe et dans le monde aujourd'hui. Donc on est probablement face à un sujet extrêmement important à traiter d'urgence par les pays.
Oui, parce que des manifestations contre la vie chère ou contre l'augmentation du prix de l'essence, il y en a aussi au Burkina Faso, sans pour autant qu'elles soient porteuses aussi d'une revendication politique. C'est pour ça que je parlais de Tea Party, d'un côté surimposition fiscale, de l'autre un sentiment de sous-représentation politique. Sylvie Kaufmann disait que ce mouvement occupe momentanément le no man's land de notre démocratie. Là encore, ça vous semble une perception juste?
Oui, très clairement, je crois que, et c'est pas nouveau, on l'a souvent souligné, je pense que l'évolution des partis politiques n'a pas totalement pris la mesure de l'évolution de nos sociétés, avec cette impression que la désindustrialisation en France faisait disparaître une classe ouvrière qui a été remplacée par une classe la classe populaire a perduré même si ce n'était plus que des ouvriers. Et je crois qu'on n'a pas bien pris la mesure de cette évolution et on a cessé, en tout cas pour les partis politiques traditionnels, de parler à ces gens-là. Ce phénomène se double de la mondialisation aujourd'hui, qui donne des possibilités à un certain nombre d'individus de gagner toujours plus d'argent et en plus de faire de l'évasion fiscale, puisque notre sujet est celui-ci aujourd'hui, ou de l'optimisation fiscale suivant les termes, et à d'autres personnes au contraire d'être marginalisées, de voir le pouvoir d'achat stagner, mais d'être de plus en plus imposées pour des raisons diverses et variées, et aussi légitimes que la transition énergétique.
Et alors précisément, rien que pour parler de la fraude fiscale, elle est chiffrée en France, je croyais par Éric Vernier, à 5 milliards d'euros, c'est l'équivalent des 2 milliards de hausse de carburant, des 3 milliards d'impôts sur la fortune, pour donner un ordre de comparaison. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, un grand fond depuis 10 ans quand même de scandales et d'affaires qui peut-être ont attisé un sentiment d'iniquité fiscale mondiale. Vous direz ça des offshore leaks jusqu'au Panama Papers, jusqu'au Cum-Ex aujourd'hui là.
Oui, tout à fait. Alors le paradoxe de la situation, c'est que quand ça commence à être médiatisé, quand il y a des scandales qui éclatent, c'est qu'on commence à prendre conscience du phénomène et à le traiter. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, elles sont très très loin de régler le sujet, mais on est au début d'une véritable prise de conscience et d'une action sur ces questions-là. Enfin, au début, ça fait une dizaine d'années qu'on agit, mais c'est un sujet extrêmement compliqué. Donc on est plutôt dans une période où on réalise le phénomène et on est en train d'essayer de lutter, avec plus ou moins d'efficacité, mais on est en train d'essayer de lutter. Simplement, c'est vrai que les effets de ce phénomène sont extrêmement élevés, extrêmement importants, conduisant à taxer des populations qui n'ont pas les moyens d'échapper à l'impôt et donnant ce sentiment d'injustice fiscale, sentiment renforcé par la médiatisation de toutes ces affaires.
Oui, alors justement, si on dit un mot du potentiel de déstabilisation de cette évasion fiscale, d'une part, elle est quand même par nature très difficile à chiffrer. Il y a ces chiffres mondiaux là, d'un rapport de l'OCDE l'année dernière, de 350 milliards par an d'évasion fiscale, chiffrée par Gabriel Zucman de Berkeley. Et pour l'optimisation fiscale, c'était 100 à 240 milliards de recettes fiscales par an. Mais c'est peut-être largement sous-évalué par rapport aux chiffres qu'on a obtenus aujourd'hui.
Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres. Ce dont on a pris conscience ces 5-10 dernières années, c'est que ce n'était pas marginal. C'est-à-dire, il y a eu un discours pendant très longtemps qui a consisté à dire, oui, c'est vrai, il y a des paradis fiscaux, mais ça reste relativement marginal. On s'aperçoit aujourd'hui que ça touche tout un ensemble de secteurs et que c'est loin, très très loin d'être marginal. Certains comparent ça à la dette publique contractée par les États ces 20 dernières années pour financer la dépense publique. Et très clairement, on sur des ordres de grandeur qui sont assez similaires.
Et alors, ce que vous disiez précisément, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un de ces grands scandales, ça a provoqué une réaction internationale. Là, c'est assez clair, le G20 en 2013, juste après les Offshore Leaks, ou alors le Conseil européen en 2014, juste après les LuxLeaks. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici, notamment si on commence par le G20, il annonçait en 2013 ce qu'on appelle le BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, pour lutter contre justement ce qu'il appelle l'érosion de la base fiscale. Il y avait un grand plan qui a été annoncé. Est-ce qu'il a été mis en place et avec quels effets?
Alors, la convention de l'OCDE qui met en place le BEPS a été signée en juin 2017 et on est en cours de ratification aujourd'hui. Effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau dans sa forme, dans les méthodes qui sont mises en place, d'échange d'informations, de transparence, en vue de mieux taxer en fait les grandes entreprises. Donc c'est un véritable progrès porté par l'OCDE, qui fait étrangement penser d'ailleurs à ce qui a été fait à l'OCDE sur la lutte contre la corruption. On peut faire un parallèle entre les deux.
Donc c'est une convention sur l'échange de données, pour être clair.
C'est une convention plus large que l'échange de données. C'est une convention sur la fiscalité des grandes entreprises et comment, dans un monde global, avec des juridictions qui restent nationales, les pays peuvent échanger des informations de manière automatique, peuvent mettre en place des conventions qui vont permettre de mieux taxer ces entreprises et de mieux connaître leur activité, leur chiffre d'affaires et la répartition de ce chiffre d'affaires. Donc on est quelque chose, il y a 15 actions, donc c'est quand même extrêmement, c'est un texte extrêmement lourd et qui va mettre du temps à se mettre en œuvre, mais petit à petit les choses vont avancer. Mais encore une fois, ce qui est peut-être intéressant, c'est de faire le parallèle avec la lutte contre la corruption, parce que je crois que la lutte contre l'évasion fiscale, c'est le nouveau phénomène. On a connu la lutte contre la corruption, elle a démarré à la fin des années 90 avec une convention de l'OCDE en la matière, elle a été signée puis ratifié pendant un certain nombre de pays. Qu'est-ce qu'on apprend de cette lutte? Dans un premier temps, les pays traînent un peu les pieds à mettre en place des réglementations, sauf que les ONG se sont saisies du dossier. Il y a une médiatisation également des affaires de corruption qui oblige progressivement les États à se mettre dans le rang et à lutter efficacement contre la corruption. La dernière illustration en date, c'est la loi Sapin 2, la création de l'agence de lutte contre la corruption en France, de l'AFA, l'Agence française anticorruption. Donc on voit que les choses bougent, on voit que les dossiers avancent, même si... Oui. On est en 2018, ça prend énormément de temps. Et puis, on s'aperçoit que ça éradique pas totalement la corruption parce qu'on est dans un monde global et que ça reste très compliqué.
Oui, la loi Sapin 2 qui obligeait à publier les revenus des dirigeants, je crois, par exemple. Mais par contre, justement, au niveau de l'Union européenne, il y a peut-être des difficultés supplémentaires. C'est vrai qu'il y a eu une grande mobilisation des ONG à la fin de l'année dernière, Oxfam parmi d'autres, pour porter une liste noire des paradis fiscaux qui a été mise en place. Il y en avait 17 en décembre dernier. Et puis là, en juin 2018, plus que 7 États inscrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tant de difficultés ou de réticences peut-être?
Alors, les gouvernements ont encore très très peur de pénaliser l'activité économique sur leur sol en étant trop dur dans leur poursuite et leur taxation des entreprises étrangères. Très clairement, on sent cette crainte. Finalement, grosso modo, pour faire clair, si je taxe trop une multinationale, elle ira bosser ailleurs, elle créera des employeurs, et puis moi, ce sera une augmentation du chômage. On est face à cette crainte. Est-ce qu'aujourd'hui elle est fondée, eu égard aux conséquences qu'a cette injustice fiscale sur nos sociétés et aux menaces qu'elle fait peser, y compris sur nos démocraties?
Oui, question qui reste posée. Et puis, dernièrement, c'est quelque chose que vous soulignez aussi dans un article pour l'IRIS. Il y a peut-être deux difficultés majeures à la lutte contre optimisation, évasion ou fraude. C'est d'abord l'internationalisation du système avec des grandes banques qui sont présentes dans des paradis fiscaux. Et puis, quelque chose dont on a moins conscience, quelque chose qui est lié à l'ubérisation, en fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chacun est potentiellement capable d'avoir des revenus évader fiscalement, c'est un peu ça?
Oui, tout à fait. L'évasion fiscale touche à peu près, peut concerner à peu près tout le monde, et pas uniquement les ultra-riches ou les grandes multinationales. C'est un phénomène qui s'est généralisé, qui s'est banalisé. C'est très, très, très facile. Un chauffeur de taxi Uber reçoit ses revenus sur des comptes qui sont hébergés dans des paradis fiscaux. Donc, on est dans quelque chose qui est vraiment diffusé, donc très difficile de lutter contre ça, oui. Même si c'est impératif, bien évidemment.
Bon, ben là aussi, effectivement, un aspect insoupçonné. On suivra en tout cas les évolutions de cette lutte avec au 1er janvier 2019, normalement l'application d'une directive européenne. On en reparlera. Merci beaucoup Sylvie Natelli, directrice adjointe de l'IRIS.